La géographie, c'est l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Une seule communauté, un président pour le Pays Basque.
Nous prenons maintenant un maquila à la main, les gouvernements passent, les préfets, les sous-préfets vont et viennent, mais nous sommes toujours là et nous pensons que nous sommes vraiment sur le chemin de la victoire.
Le maquila, ce bâton ferré propre aux Basques à la main, nous sommes sur le chemin de la victoire. Le mouvement basque a eu d'abord l'intelligence de découpler le culturel et le politique. Dans le domaine culturel, il a gagné des points décisifs, réussissant peut-être à inverser la courbe du déclin de la langue. Dans le domaine politique, en revanche, l'asymétrie avec le Pays basque espagnol, le Pays basque sud, était à la fois un levier et un handicap. Les militants de l'ETA trouvant refuge et soutien de ce côté des Pyrénées, les gouvernements français successifs en ont tiré argument pour refuser la création d'un département propre qui se serait séparé des Pyrénées atlantiques et aurait pu devenir une collectivité territoriale à statut particulier comme en Corse. Sur l'autre versant des Pyrénées, une communauté autonome existe pourtant depuis 1979. La revendication basque qui dépasse les formes partisanes ou qui plutôt traverse toutes les forces politiques a donc guetté d'autres opportunités. Et lorsque le gouvernement précédent a encouragé le regroupement des intercommunalités, elle s'est glissée dans la faille. 10 intercommunalités se partageaient le Pays basque. L'occasion devait être saisie de n'en faire qu'une. Biarritz et Anglet étaient contre, nombre de petites communes craignaient la dilution, l'harmonisation fiscale qui s'ensuivrait. Les missi-dominici du mouvement ont pris leur maquila et ont fait le tour des popotes, et maintenant c'est chose faite depuis le mois de janvier. La communauté d'agglomération Pays Basque est née qui, au-delà du culturel, aura des compétences en matière d'économie, de transport, de tourisme, d'aménagement du territoire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour à vous, Peyo Etcheverry Enchart.
Achal Leon, bonjour, monsieur Lebrun.
Alors, je me disais, on pourrait peut-être raccourcir, pour la commodité du présentateur de Paris, votre nom, mais les Peyo Etcheverry, ils sont très très nombreux.
Ah oui, quasiment autant que les Jean Lebrun en France.
Et oui, il y a même 2 Peyo Etcheverry qui ne sont pas du même bord au conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz. Mais je vais vous présenter aujourd'hui comme historien, éditeur. Il est une bonne maison qui s'appelle Hercal, qui siège à la fois à Saint-Sébastien et à Bayonne, où vous publiez nombre de livres consacrés à l'histoire du Pays Basque, 40 hauts lieux qui font l'histoire du Pays Basque, et puis une histoire du Pays Basque français des origines à nos jours. Alors, si vous me le permettez, on ne va pas commencer aux origines. Surtout que c'est un peu indémêlable, les origines, notamment celles de la langue basque. Hein.
Oui, effectivement. Hein, j'en ai réussi à trouver la clé.
Alors, il vaut mieux prendre un moment où se nouent de nouvelles figures qui renouvellent des figures traditionnelles. On pourrait prendre comme point de départ, je crois que ce ne serait pas arbitraire, la guerre d'Espagne et le franquisme qui s'éternise.
Oui, effectivement, c'est un moment clé de l'histoire contemporaine du Pays Basque dans son ensemble. 18 juillet 1936, le coup d'État franquiste. Le Pays Basque Sud est un enjeu militaire important puisqu'il est à côté de la frontière. Et quand il est conquis, très vite, un flot de réfugiés gagne ce qu'on appelle le Pays Basque Nord, c'est-à-dire franchissent la frontière.
Au Pays Basque Sud, parce que vous appelez le Pays Basque Sud, il y a un gouvernement autonome pendant la République ?
Alors, en octobre 1936, depuis longtemps, le statut d'autonomie qui était recherché par les nationalistes basques, du Parti nationaliste basque, qui s'était créé une quarantaine d'années auparavant, arrive à se voir octroyer, dans le contexte de la guerre civile, ce statut d'autonomie. Mais ils se font balayer par les armées franquistes et sont obligés de partir en exil.
Et donc ceux qui viennent comme réfugiés, c'est aussi bien les Pékins, les militaires, que les membres du gouvernement.
Tout le monde, effectivement, est obligé dans un premier temps de fuir l'armada franquiste et la répression atroce qui l'accompagne. Et évidemment, le premier territoire où ils se retrouvent, c'est effectivement autour de Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Mauléon. Et il faut bien dire que c'est quand même une nouveauté pour ce petit territoire, hein, tout en bas à gauche là de la France, dont l'écho généralement est plutôt celui du doux ronflement du dormeur. Hein. Il ne s'y passe pas grand-chose, c'est un territoire rural, très conservateur politiquement. Et tout à coup, ces populations, qui sont en plus considérées la plupart du temps comme des rouges, c'est-à-dire les républicains espagnols, anticléricaux, considérés comme anticléricaux, alors que les nationalistes basques sont au contraire très attachés à la foi catholique, déboulent sur ce territoire et la réaction est ambivalente. Certains ont peur, d'autres au contraire ont une réaction humanitaire.
Alors la figure du réfugié va reprendre forme, la figure du passeur va être renouvelée. C'est une vieille habitude hein, de la contrebande, de l'insoumission, que celle des travailleurs de la nuit qui font passer les frontières. Mais
en fait, on est là dans un contexte très particulier qui est celui de la Seconde Guerre mondiale. La frontière au Pays Basque, ça fait longtemps qu'elle existe, hein, depuis, allez, on va dire le XVIe siècle, sauf qu'elle n'a jamais véritablement été reconnue au quotidien. Les bergers l'ont toujours traversée, les troupeaux de brebis ont très peu souvent reconnu les bornes frontières qu'elles croisaient. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les passeurs ont allègrement utilisé aussi la nuit, hein, Gaueko Lana, dit-on en basque, le travail de la nuit, pour passer des marchandises, mais également pour passer des résistants, des juifs, des gens qui fuyaient la France pétainiste ou l'Europe nazie, pour passer en Espagne qui était neutre à l'époque.
Dans le franquisme, il faut marquer plusieurs étapes. 39, la retirada avec la victoire de Franco. 44-45, les gens qui sont réfugiés espèrent pouvoir revenir, mais grâce à la guerre froide en particulier, Franco sauve sa peau. Et puis, la longue agonie du franquisme s'accompagne des soubresauts provoqués par un mouvement qui naît en 1959. ETA, c'est d'ailleurs en 1970 le dernier hoquet du franquisme autour d'un procès qui est fait à Burgos, à des militants de l'ETA qui vont être condamnés à la peine de mort pour un grand nombre d'entre eux, exécutés au garrot pour avoir commis des attentats contre Franco. Voici ici, vous parliez des prêtres du Pays Basque, donc à la figure du réfugié du passeur, il faut ajouter celle du prêtre en soutane et en béret, l'abbé Larzabal qui intervient à propos de ce procès de Burgos. Chez lui, il y avait un véritable caravansérail de réfugiés.
Dans les catégories donc, de l'élite basque, je crois que le prêtre a occupé une part très importante. Et si nous venons à présent dans le pays basque de notre côté, c'est-à-dire nord, chez nous, quand il y a eu le dernier évêque, une centaine de signatures de prêtres, on demandait un évêque qui sache le basque. Depuis lors, il y a eu tout un petit climat comme cela, en particulier au grand séminaire, où on a renvoyé les séminaristes parce qu'ils étaient trop pro-basques. Actuellement, pour ce jugement de Burgos, on a agi très vite. En une après-midi, on a recueilli 57 signatures de prêtres basques, mais on a recueilli certainement presque la totalité des signatures des prêtres si on avait eu le temps. Donc il y a eu toujours ce mouvement du clergé très près du peuple qui a défendu spirituellement les intérêts du peuple.
Dites-moi, c'est un milieu que votre famille connaît bien. Votre grand-père a été député brièvement à la Libération, conseiller général perpétuel à Baïgorry. C'est le milieu démocrate chrétien, non ?
Alors, il est au diapason de la société basque au Pays Basque Nord, c'est-à-dire une société qui effectivement est conservatrice, démocrate chrétienne, et qui d'ailleurs, à ce titre, est attachée également à tout ce qui est langue basque, culture basque. Et donc, effectivement, mon grand-père n'est pas, alors est représentatif au plan sociologique, mais pas forcément représentatif sur l'ensemble du panorama public politique, puisque le nationalisme basque, à l'époque où mon grand-père dépose un statut d'autonomie en 1945 à la Constituante, il ne sera même pas étudié, est en fait un oasis au milieu d'un désert militant au plan du Pays Basque, parce que le nationalisme basque n'existe pas à l'époque. Il faut attendre Mbata en 1963, et notamment l'abbé Larzabal dont vous avez passé un discours.
Et puis, j'aimerais que vous fassiez la programmation musicale, Peyo Echeverri-Enchart.
Volontiers.
Michel Labbé-Guéry, c'est aussi un centriste et un démocrate chrétien. Il a été maire perpétuel de Cambo, il a été conseiller général, il a même été député et sénateur. Je vais faire une comparaison avec le Béarn, je ne sais pas si vous allez aimer, mais les élus sont chanteurs chez vous aussi, comme Monsieur Lassalle dans le Béarn. Alors Michel Labbé-Guéry, présentez-nous cette chanson qu'on va entendre, fondatrice.
Michel Labbé-Guéry a composé en 1971 une chanson qui s'intitule Gugira Euskadiko Gazteri Berria. Ça signifie « Nous sommes la nouvelle jeunesse d'Euskadi ». C'est une chanson qui est un moment charnière dans l'histoire politique et également culturelle du Pays basque contemporain, parce qu'il y a un avant et un après. Avant, notamment au plan musical, on entendait de langue basque au plan musical, qu'à capella ou dans le cadre d'un chant choral, mais certainement pas à la guitare sèche et enregistrée sur micro-sillon. Donc, pour la première fois, la langue basque devient moderne. Mais le discours qu'il tient est également radicalement différent de ce qu'on entendait à l'époque, et surtout dans la bouche d'un élu.
C'est une interpellation des plus jeunes aux plus vieux.
Exactement.
Père, qu'as-tu fait de notre langue? Qu'as-tu fait de notre terre?
Aita zerrek induzu gure lur maitea, kanpoku ari saldu oidoak abea. Arrotzez betea da Euskadi guzia, Euskalduna etxean ez dago nausia. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Peyo et Cheverian Chart, nous parlons de l'élection du président de la communauté d'agglomération du Pays Basque, du mouvement basque au Pays Basque, comment dire, français nord. Il y a un auditeur, médecin de la côte atlantique, qui me dit, moi le côté cubéni du mouvement basque, ça me laisse indifférent, mais j'ai parfois la chair de poule quand j'écoute certains chants basques. Je ne sais si c'est le cas de celui-ci, dans le cas de cet auditeur, mais c'est un peuple chantant.
Bah, Voltaire le disait déjà.
C'est le peuple qui chante et danse au pied des Pyrénées.
Voilà, on en a fait une carte postale. Mais effectivement, c'est un peuple qui a une tradition, notamment de culture littéraire orale, très marquée. C'est notamment le cas du bertsularisme, c'est-à-dire le chant improvisé, mais également du chant, mais qui est resté très longtemps un chant dit traditionnel. Et avec Michel Labéguerie, dont vous avez passé un extrait, on passe un cap parce que on ouvre l'ère de ce qu'on pourrait appeler le folk basque, puis ensuite, qui sera suivi de l'ère du rock basque, pour une langue qui est multimillénaire, mais qui a tardé à franchir le pas de la modernité.
Vous aimez le rock basque, vous avez consacré un livre au sujet, c'est parce qu'il a épousé très vite les thèses nationalistes, non?
Tout à fait. Oui. La synthèse, vous avez dit tout à l'heure en introduction que la culture et la politique avaient été scindées au Pays basque, qu'on avait eu raison, on a aussi eu raison parfois de les lier.
Dites-moi, revenons aux questions que posait le chant de Labéguerie. Qu'as-tu fait, mon père, de la terre? Est-ce que tu ne l'aurais pas vendue? Petite évocation du chemin des morts invisibles qui relie les maisons basques. C'est un texte de François Sureau. Et ensuite, un témoignage venu d'Ustarich.
Chez les Basques, la maison est le centre de tout. L'homme et la femme y règnent ensemble, à parts égales. Ils ont la même dignité. Et leurs deux noms sont gravés côte à côte sur le linteau de la porte. Quand un membre de la famille meurt, il est conduit de la maison au cimetière par un chemin particulier que l'on appelle le chemin des morts. Chaque maison, chaque famille a le sien. Ils ne se confondent pas, si bien qu'au-dessus des routes et des sentiers du village, au-dessus d'eux ou à côté comme on voudra, il y a d'autres chemins invisibles formant une toile dont l'église est le centre.
Pour un Basque, vendre sa maison, ça revenait à vendre la tombe avec et ça revenait à vendre les ancêtres, à vendre sa famille. C'était considéré donc comme un sacrilège de vendre une maison basque et jusque pratiquement au milieu du XXe siècle, les maisons basques ne sont pas vendues, elles sont restées dans les familles de génération en génération. Nous, on n'a pas appliqué le code de Napoléon et on a fait des espèces de simulacres de succession, c'est-à-dire que le père de famille choisissait un héritier Et il allait devant le notaire en disant, voilà, cet héritier ou cette héritière va tout garder, la maison, les animaux, les outils, la terre et la tombe de l'église, et il donnera une petite compensation financière aux autres frères et sœurs. Et les autres frères et sœurs, le plus souvent, eh bien, pour maintenir l'unité de la maison, venaient devant le notaire pratiquer l'abandon de leur part d'héritage.
Témoignage de Xavier Lanus. C'est curieux, oui, on sait que les Corses, on le leur reproche, ont utilisé des textes dérogatoires, mais qui sont des textes officiels, Lisa Rémiot, tandis que vous, au Pays Basque, vous avez des notaires qui s'emploient à contourner la loi. Je vois d'ailleurs derrière la vitre votre père là, qui était notaire.
Et mon grand-père qui était notaire également, et mon arrière-grand-père, tous ont utilisé ces mêmes méthodes, plus ou moins clandestines, puisque vous parliez tout à l'heure du travail de la nuit. Là, c'est un travail de la nuit, mais diurne, c'est-à-dire qu'il n'est pas officiel, il n'est pas reconnu, il est juste légal, mais il permet d'utiliser les aspérités de la loi, des lois de succession, du code Napoléon, du code civil, qui avait à l'époque, au début du 19e siècle, balayé tout le code patrimonial traditionnel du Pays Basque, qui assurait, comme le disait votre témoin, la stabilité de la société basque, et donc, jusque très récemment, et même encore aujourd'hui, les notaires conseillent les familles de manière à ce que la stabilité de la maison familiale soit garantie et qu'elle ne soit pas démembrée.
Vous vous installez dans les creux. Qu'as-tu fait de ta terre ? Alors, à partir de Napoléon III, la côte basque, vous êtes élu de Saint-Jean-de-Luz, devient réputée. Beaucoup de gens extérieurs au pays construisent. Mais alors, sur le mode basque, à Cambo, la ville de la Béguerie, c'est la villa d'Edmond Rostand. Il n'y a pas plus néo-basque.
Alors nous sommes effectivement là au cœur du néo-basque au sens strict du terme, c'est-à-dire au sens d'école architecturale, de style architectural. Nous sommes là au début du XXe siècle, quand Edmond Rostand construit Arnaga, sa fameuse maison donc, il lance un style, mais qui est un élément de cette époque-là. On est dans ce qu'on appelle la récupération du patrimoine culturel à l'époque, partout en France d'ailleurs, et c'est l'époque des musées des arts populaires et des traditions populaires. On récupère ça et on le recrée de manière plus moderne. Le néo-basque se fait donc sur ce style-là. Depuis, ce style est passé et on ne fait plus que du pastiche de ce néo-basque pour récupérer un peu l'effet carte postale de l'architecture. Mais Michel Labéguerie, dans son chant, ne parle pas d'architecture. Il parle de la vente de la terre et donc, finalement, de la vente d'un pays au plus offrant.
Mais il pose aussi la question, père, qu'as-tu fait de ta langue ? Alors, est-ce que l'inversion de la courbe du déclin du basque peut être prédite grâce à des mouvements associatifs qui peu à peu se sont institutionnalisés ? Les Ikastolas qui sont créés par des particuliers pour apprendre le basque aux enfants. Et après, il y a un institut culturel basque à partir de 1990.
Oui, et un office public de la langue basque aussi. Il y a eu une récupération de cet enjeu linguistique à une époque, justement, il y a une cinquantaine d'années, où la langue basque était vraiment dans le creux de la vague. Pendant à peu près 70-80 ans, elle avait été combattue dans les écoles de la République, qui était émancipatrice par l'apprentissage du savoir, et Mona Ouzouf pourrait en témoigner, mais qui également voulait niveler le niveau linguistique des Français pour répandre la langue française au détriment des parlers locaux. La langue basque est dans cette situation à cause de ce passé-là. Et donc aujourd'hui, on a un travail de récupération qui commence à porter ses fruits, puisque dans les tout premiers âges de la vie, entre 0 et 6 ans aujourd'hui, les courbes sociolinguistiques commencent à connaître une tendance ascendante. Mais c'est un travail qui est très long. Et la question est-ce que la langue basque a le temps ? Donc la réponse pour ça est probablement un statut pour la langue basque qui vont permettre la co-officialité, comme dans le statut de Guernica au sud des Pyrénées.
Oui, mais vous savez bien que l'article 2 de la Constitution française empêcherait et cela et la reconnaissance simplement de la charte des langues régionales que la France a signée sans la ratifier. Il y a eu un dernier coup de boutoir à l'Assemblée nationale fin novembre, mais sans effet par la députée de Guingamp. Alors, vous parliez des concours d'improvisation, on va vous en faire entendre un d'un genre un peu particulier. C'est la même chose que les chants et réponds en Bretagne, que les systèmes de dialogue qu'on voit spontanément dans les cafés ou les assemblées corses.
Exactement, c'est la même chose, version pyrénéenne et surtout version basque, un sujet, deux participants qui doivent répondre de règles métriques, une hémistiche au milieu, des règles diverses qui sont très compliquées mais qui surtout se fondent sur l'improvisation.
Alors ici, il y a un thème un peu particulier, cet enregistrement vient du Pays Basque Sud, enfin de l'autre côté des Pyrénées. Applaudissements. Oui, parce que il faut faire maintenant intervenir, après la figure du réfugié, du passeur, du prêtre, celle du prisonnier. Ça, c'est un concours d'improvisation autour du sort qui est réservé aux prisonniers basques, les militants ETA, qui ne sont pas tous blancs-bleus, les gens qui les ont aidés. Et puis, il y a des prisonniers des deux côtés de la frontière. Et ceux qui sont prisonniers en France le sont dans 28 endroits différents à travers l'Hexagone.
Oui, ça c'est l'un des nœuds gordiens de la résolution de ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit basque contemporain. Depuis 2011, il n'y a plus de ce qu'on appelait la lutte armée de la part de l'ETA, qui a cessé son activité de manière unilatérale. Et aujourd'hui, toute la question se pose, en Espagne comme en France, de savoir si l'État espagnol et l'État français s'impliqueront dans ce conflit, et notamment concéderont ce premier pas symbolique, mais d'une puissance symbolique très forte, qui en plus répondrait à la loi, au code de loi européen, de libérer les prisonniers malades, les prisonniers en fin de peine, et d'exercer le droit de ces prisonniers au rapprochement carcéral.
Mais les prisonniers, c'est aussi une figure constituée, presque sacrificielle, voire christique. Ils détestent les prisonniers basques quand ils sont expédiés à Fresnes et à Fleury et qu'ils ne peuvent même pas écouter la radio basque, être confondus avec des radicaux islamistes.
Oh, je ne pense pas que les prisonniers basques soient confondus avec des radicaux islamistes. Par contre, effectivement, aujourd'hui, la situation au Pays Basque du processus de paix, et là c'est plus l'historien qui le dit, plus que le militant politique, est une situation de blocage, à tel point que récemment, il ne vous a probablement pas échappé qu'une initiative a été prise par la société civile, des membres de la société civile qui se sont baptisés les artisans de la paix, pour commencer eux-mêmes le désarmement des armes de l'ETA, puisque l'État français ni l'État espagnol ne souhaitait les récupérer.
C'est drôle pour un historien l'usage du mot État français. Ne trouvez-vous pas ?
Quelle est la nationalité de cet État ? N'est-il pas français ?
Mais dites-moi, ce qui s'est passé avec l'ETA, essentiellement du côté sud, ça a été à la fois un levier pour le mouvement nationaliste basque qui s'est senti concerné au nord, et puis aussi un handicap parce que ça a empêché la possibilité que se réalisent peut-être des promesses qui avaient été faites, notamment par la gauche. François Mitterrand, en 1981, avait promis la création d'un département basque qui aurait été de l'océan jusqu'aux limites du Béarn. Et quand la coopération policière a commencé entre le gouvernement socialiste français et le gouvernement socialiste espagnol. Quand il y a eu des militants paramilitaires d'extrême droite espagnole, le GAL, qui sont venus opérer à Bayonne, le président de la République d'alors s'est adressé ainsi aux Basques, François Mitterrand, 1984.
Ceux qui veulent exister au plus profond d'eux-mêmes, porteurs d'une histoire qui méritent le respect. S'il s'agit de considérer que cela pourrait servir habilement d'étape à partir de laquelle on rebondit plus loin pour dire autonomie, pour dire indépendance, je dis clairement et les yeux dans les yeux, avec moi, non.
C'est vous qui avez fait la programmation, Peyo Echeverria-Enchart. Vous trouviez que ce morceau de bravoure de François Mitterrand était savoureux. Il est en train de dire, là, que la possibilité d'un département autonome qu'il avait laissé entrevoir, eh ben, elle est refermée par les enjeux politiques de ce moment-là, le milieu des années 80.
Oui, effectivement. La perception qu'on en a eu au Pays Basque à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, est légèrement différente, parce que à l'époque où François Mitterrand avait porté cet engagement parmi ses 110 propositions, c'était la 54e, nous étions en 1979-80, la situation était exactement la même, c'est-à-dire on eût pu à l'époque déjà penser que pour le mouvement basque de l'époque, la stratégie de création d'un département Pays Basque aurait été un premier pas pour davantage. Sauf qu'en réalité, la population du Pays Basque est majoritairement française, entre guillemets, au sens politique du terme, c'est-à-dire une société de centre-droit, de droite majoritairement, qui est aujourd'hui encore majoritairement favorable à cette reconnaissance institutionnelle, sans pour autant à aucun moment considérer qu'il ne s'agit d'un premier pas vers autre chose. Donc là, ça a été considéré, cette déclaration de François Mitterrand, comme un reniement que le Parti Socialiste, à vrai dire, traîne comme un boulet au Pays Basque aujourd'hui.
Mais ce sont les années très difficiles où la sous-préfecture de Bayonne ressemble à Fornox ou à une ville assiégée dans la ville.
Oui, ce sont les années de plomb du Pays Basque. Hein. On a à la fois l'écho des attentats de l'ETA de l'autre côté de la frontière, les attentats d'Ipar et Tarak, puisqu'il y a eu un mouvement armé en France aussi, et puis inversement, les attentats du Gal dont vous avez parlé, toutes les polémiques autour des extraditions. Et donc, bien sûr, la sous-préfecture ressemblait à Fornox. Elle n'a pas changé aujourd'hui d'ailleurs, elle a la même configuration.
Alors, pas de département. Alors, les creux, les failles, les mouvements basques aiment bien s'y insérer. Quand Charles Pasqua lance la politique des pays, paf, vous en êtes. Et quand la loi, le nôtre, enfin la possibilité maintenant d'élargir les intercommunalités surgit, vous en êtes. Et c'est quand même très malin, très 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 habile. 158 communes de taille très différente, jusqu'à l'intérieur des terres. Beaucoup sont de petites communes rurales. Et puis les grandes villes côtières. Et tout ça, une communauté d'agglomération avec un président.
Tout à fait. Il faut rappeler qu'à l'origine, la revendication qui était portée par la société civile au Pays Basque, y compris par ses élus, y compris par ses parlementaires, y compris par le maire de Bayonne, celui d'Anglette, celui de Biarritz, n'était pas une communauté d'agglomération, mais était une collectivité territoriale à statut particulier. Et c'est le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a dit, comme François Mitterrand, avec moi, non, et qui a dit, dans le cadre des lois de décentralisation, la seule possibilité que nous allons ouvrir est celle d'une communauté d'agglomération ou urbaine, finalement elle sera d'agglomération unique. Et c'est donc ce nouvel établissement public de coopération intercommunale.
Oui, mais pour les auditeurs, il faut qu'ils comprennent que ça donne beaucoup de possibilités d'action. Par exemple, vous parliez de ce qui se passe sur les côtes en matière d'aménagement du territoire.
Pour la première fois, effectivement, le Pays Basque, qui jusqu'alors n'était, on pourrait presque dire, comme dirait Metternich, qu'une expression géographique, à l'intérieur d'un département des Pyrénées-Atlantiques, connaît une institution, une communauté de communes, qui rassemble ces 158 communes, et effectivement qui est dotée de compétences d'aménagement du territoire nouvelles. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, comme avec tout outil, comment on va utiliser cet outil et dans quels objectifs, dans quelles orientations. Et c'est tous les enjeux des 3-4 ans qui vont arriver, en tout cas jusqu'à 2020, les prochaines élections municipales.
Mais le président de cette immense structure de près de 300 000 habitants va avoir le maquila qui gonfle, non ?
Il commence déjà à avoir un peu le maquila qui gonfle, puisque d'ailleurs c'est le seul véritable prétendant à ce poste de l'Endakali, comme vous l'avez baptisé tout à l'heure.
C'est vous qui employez le mot.
Ah, c'est pas moi, c'est vous qui l'avez dit en introduction.
Fort, hein,
c'est un mot très fort.
Le roi d'Espagne ne reconnaît pas un Endakali au Pays Basque, il reconnaît un président de la communauté autonome basque.
En l'occurrence, c'est peut-être pour ça justement que les maires d'Anglette et de Biarritz, dont vous avez rappelé qu'ils étaient opposés à la création de cette institution, s'y sont opposés parce qu'ils y voient derrière justement la mainmise de Bayonne sur cette institution. Bon, c'est peut-être pas sous ce petit bout de la lorgnette qu'il faut voir les choses.
Merci à vous, Peyo Echeverri-Einchart. Je rappelle qu'aux éditions Erkal, dont vous êtes Elkar, dont vous êtes un des animateurs, vous publiez nombre de livres d'histoire sur le Pays Basque des deux côtés de la frontière. Valérie Aestara, tiens, a réalisé cette émission. Franck Olivard, tiens, l'a documentée. Et Stéphane Poitvin était à la technique.